Je réponds d'abord à plusieurs questions. N'oubliez jamais que vous pouvez poser toutes les questions et on avance au point de vue philosophique quand on arrive à poser une question intelligente qui vraiment est une question pour nous. Vous voyez, quand on assiste passivement, on ne se pose jamais de questions. Et on ne profite pas. Je ne dis pas qu'il faut réagir tout le temps. On reçoit. Mais s'il y a une difficulté, on essaie de poser la question. Au fond, se poser une question, c'est essayer de formuler une objection. Et la formuler, l'objection, ça nous aide à la dépasser. Si on ne pose jamais de questions, c'est rare qu'on avance vraiment. On ne creuse pas. Alors, il faut trouver son rythme particulier. Je ne dis pas de poser tout le temps des questions, mais puisque le vrai formel est une relation, il est relatif au vrai métaphysique. Est-ce qu'on peut se demander si le vrai métaphysique est aussi une relation? Surtout quand on voit la différence entre l'acte d'être, SC, et ce qui est capable d'être, l'essence, la puissance. Bon. Alors, on a dans l'être le point de vue de l'être en acte. L'être en acte n'est pas l'être en puissance. Et le principe de finalité, c'est l'être en acte. Il n'y a pas de principe du côté de la potentialité. Il n'y a pas de principe du côté de la potentialité parce que la potentialité est toujours seconde. Tandis que l'acte est premier. Et le principe est premier. Donc, dès qu'on comprend que la potentialité est relative à l'acte, il ne peut pas y avoir de principe premier de potentialité. Alors, c'est là qu'il faut bien saisir. Le vrai formel est une relation. C'est-à-dire, il s'exprime par une relation. Est-ce que c'est vraiment une relation ? Il s'exprime par la relation. Est-ce que le vrai formel n'est pas la qualité de l'intelligence ? Être la qualité de l'intelligence, ça exprime quelque chose d'autre que la relation. Toute qualité est relative, mais elle est qualité. Et le vrai formel est qualité. C'est la qualité de l'intelligence, avant tout et en premier lieu. Alors, le vrai formel est adéquation à la réalité. C'est très vrai, ça l'exprime. Mais il est qualité de l'intelligence. Si vous ne voyez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre que le vrai est un transcendantal. Alors, il est transcendantal et convertible avec l'être, non pas la vérité formelle, mais le vrai de l'intelligence et qualité de l'intelligence. Cette qualité s'exprime dans une relation à l'égard du vrai transcendantal, qui lui n'est pas relatif. Le vrai transcendantal est convertible avec l'être. Est-ce que toute modalité de l'être en acte, est enterikeia? Toute modalité de l'acte, toute modalité de l'être en acte, est enterikeia? Non, sûrement pas. Et intellekeia, c'est-à-dire qualité de l'intelligence. C'est celui qui est immanent à l'intelligence, intellekeia. Tandis que energeia, c'est l'acte pris comme convertible avec l'être. Alors, c'est pour ça, toute modalité de la tête. Entelekeia, l'être en acte, entelekeia, est convertible avec l'être. Donc, il n'est pas entelekeia. Alors, est-ce que l'entelekeia est un mode de l'être? Entelekeia est relatif à entelekeia. À energeia. Il est immanent et relatif. Alors, est-ce qu'il est un mode de l'être? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. C'est puisque la modalité de l'être, et je saisis l'être à partir des principes, c'est-à-dire à partir du principe formel, ce qui est l'être, qu'est-ce qu'il est, à partir de la finalité, la fin de l'être, et pas de causalité efficiente, pas de causalité matérielle. Donc, l'être est pris selon ces deux principes, principe selon la forme, principe selon la fin. Alors, c'est les deux raisons d'être. Toutes les modalités de l'être, de la ratio intis, de la ratio d'être, est relative à la raison d'être. Et c'est cela qu'on doit regarder en premier lieu. Alors, à l'égard de l'être pris selon la forme, selon la fin, l'être en acte, cet être, le mode premier de cet être, c'est entelekeia. Mais pour l'être en acte, energeia. Et seulement pour ça. Parce que je ne vais pas dire que tout ce qui est en acte, par exemple l'opération que j'ai d'amour, alors est-ce que l'opération d'amour est entelekeia? En tant tant que cet amour est relatif au bien. Oui, en tant que cet amour est relatif au bien. Et là, il reste dans la ligne de l'acte. Mais si je ne suis plus dans la ligne de l'acte, le mode de l'être n'est plus intellectuel. Il est relatif à la substance. Ce qui est relatif à la substance, est-ce qu'il est intellectuel? Non. C'est ce qui est relatif à Energeia seulement. Mais vous pourrez dire que tout ce qui est relatif à la substance est un certain acte, mais ça n'avance absolument rien à parler de Energeia. Vous voyez, on parle de Energeia relativement à Energeia. Je ne parle pas de entelekeia relatif à la substance. Relatif à la substance, c'est tous les accidents. La relation, la qualité, la quantité. Alors, est-ce que tout cela est entelekeia? Oui, d'une certaine façon, mais ce n'est pas ça qui la caractérise. Ce qui la caractérise, c'est d'être relatif à la substance. Entelekeia, c'est d'être relatif. Entelekeia, c'est d'être relatif à Energeia. Alors, il ne faut pas quitter ces deux lignes. Il ne faut pas les mélanger, quoi. On regarde l'être sous la lumière de l'interrogation. Qu'est-ce que l'être au point de vue de ce qui le détermine? Qu'est-ce que c'est l'être au point de vue de son acte? Et il faut maintenir les deux relations qui sont distinctes. Autrement dit, l'interrogation, qu'est-ce qu'est l'être selon sa forme? Qu'est-ce que c'est que l'être selon sa fin demeure toujours? C'est toujours la même interrogation. Mais je ne peux pas passer de ce qui est déterminé de l'interrogation de l'acte à l'interrogation formelle. C'est vrai, vous voyez, c'est vrai que tout ce qui est déterminé d'une certaine manière est entelekeia. Mais ça ne m'avance absolument à rien de dire ça, si ce n'est de confondre. Il faut maintenir que l'intelligence humaine n'est pas intuitive. Vous voyez, cette question-là, ça provient un petit peu de la conception d'une intelligence intuitive. L'intelligence saisit en analysant. Et l'analyse se fait par la recherche des causes. Dès que vous supprimez la cause, vous tombez nécessairement dans l'intuition. Et il n'y a plus d'analyse. Vous voyez, cette réaction qu'on rapportait de quelqu'un pour vanter l'hégélianisme, répondez: dans l'hégélianisme, il n'y a plus la recherche des causes, puisqu'on est en dialectique. La recherche des causes, elle est faite pour quoi? Pour l'analyse. Et l'analyse, c'est fait pour quoi? C'est fait pour qu'on saisisse en profondeur relativement à l'être. De la causalité formelle est relative à l'être. La recherche de la causalité finale est relative à l'être. si on ne recherche plus selon les causalités, on ne recherche plus à connaître. Notre intelligence n'est pas intuitive. Nous n'avons pas une intelligence angélique. Oui, au fond, nous voulons alors, à ce moment-là, prendre la connaissance de Platon par le point de vue de la participation. Et le point de vue de la participation n'analyse plus. C'est participer. Quand on dit c'est participer, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire c'est second. Tout ce qui est participé est second, n'est pas premier. Il n'y a que le premier qui n'est pas participé. Tout ce qui est second est participé, parce qu'il est second. Mais alors je ne détermine absolument plus ce que cela représente par rapport à la recherche de l'acuité, à la recherche de la détermination ou à la recherche de la fin. Je crois que il y a deux types de connaissances, par l'analyse des causes ou par la participation. Le platonisme recherche par la participation, l'aristotélisme recherche par l'analyse des causes. Et vous avez tout le temps ces deux systèmes. C'est très curieux que Platon et Aristote ont découvert les deux manières pour l'intelligence de penser. Par la participation ou par l'analyse des causes. Mais la participation, elle n'implique pas d'analyse. Tout ce qui est second est participé. Mais je ne peux parler du second que quand je connais le premier. L'être humain est second dans son être. Il est participé. Il est second dans son intelligence. Il est participé. Mais je peux parler d'être second quand j'ai découvert le premier. Tant que je n'ai pas découvert le premier, je ne peux pas parler du second. Parce que le second est regardé comme premier intuitivement. Dans toute connaissance intuitive, vous faites de ce que vous connaissez et atteignez un absolu. Donc il est premier. Seule l'analyse peut du second remonter au premier. C'est l'intérêt de l'analyse. Il n'y a pas moyen autrement. Vous ne pouvez pas redécouvrir un premier que vous n'expérimentez pas en dehors de l'analyse. C'est pour ça qu'on n'est pas platonicien. Autrement, je serais platonicien, c'est beaucoup plus agréable. C'est plus agréable d'être platonicien parce qu'il y a un point de vue artistique qu'on aime, qui nous est comme naturel. Notre intelligence soit toujours liée au sens, c'est agréable ça, c'est descriptif, je peux décrire. Tandis que l'analyse ne se décrit pas, c'est au-dessus de la description. Vous voyez ? Ça, c'est très important, d'arriver à découvrir ça. Et arriver à découvrir qu'il y a deux types vraiment de connaissances, par le point de vue de la participation et par le point de vue de l'analyse de la cause. Par le point de vue de la participation, il faut connaître le premier. C'est là l'avantage. C'est pour ça que la participation n'est pas inventive. Elle ne découvre pas. La participation, c'est beaucoup plus ordonner deux choses qu'on connaît, le premier et le second, et puis s'ordonne. Et ça se sent tout de suite, ça. Intéressant, du reste, quand on écoute une conférence, de voir si on est aristotélicien ou platonicien. Parce que beaucoup de platoniciens le sont sans le savoir. Aristotélicien, on le sait. Mais c'est intéressant de suivre, quand on écoute une conférence, est-ce qu'il pense d'une manière platonicienne ou d'une manière aristotélicienne? Vous voyez, hélas, que la plupart des conférenciers, ils sont platoniciens, sans le savoir. Et c'est très rare que vous avez une analyse vraiment aristotélicienne. Ça, c'est une manière intelligente de suivre les conférences, de voir si vous avez une conférence type. Parce qu'il y a deux manières de regarder l'intelligence humaine, à la manière de Platon, à la manière d'Aristote. Ils sont au terme de toute cette grande recherche grec. Alors, le type platonicien continue. Et la plupart des chrétiens sont platoniciens. Alors, vous voyez, ils font un mélange entre la connaissance de foi et la connaissance philosophique. Quand vous parlez d'un parti politique chrétien, est-ce que c'est de l'Aristote? Est-ce que le parti politique supponite chrétien? C'est une question importante. Et c'est là où on voit quoi. Chrétien se dit à partir de la révélation, à partir du Christ. Est-ce que le Christ a donné un parti politique? Non. Tout ce que l'homme est capable de connaître par lui-même, le Christ l'a laissé. Il a apporté être surnaturel, être chrétien. Et là, ce sont des questions que nous pouvons nous poser à nous-mêmes, et au fond, on voit très bien toutes les confusions. On baptise tout, on baptise la République. Tu es capax. Est-ce que, se demandait, est-ce que tu es capable d'être chrétien? Est-ce qu'un parti politique est capable d'être chrétien? Tu es capax. Je ne peux baptiser que tu es capax. Si on fait de la philosophie, c'est pour pouvoir se poser la question. Si on n'a pas de philosophie, cette question n'a pas de sens. Parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que la supposition. sont polites. Est-ce que un parti politique peut être baptisé? Est-ce que Jésus nous a apporté un régime politique? Pourquoi Dieu s'opposait-il au peuple d'Israël d'avoir un roi? Il y a une opposition à ça. Regardez l'écriture. Et puis Dieu s'est tu. Mais ce sont des questions qu'on doit tout le temps se poser, ça, au point de vue philosophique. Parce que, instinctivement, ça, quand on est chrétien, on veut tout baptiser. On baptise même les poupées. Si tu es capax. La poupée, c'est quelque chose que l'homme a fait. Tout ce que l'homme a fait n'est pas capable du baptême. Tiens, tiens. Il n'y a que ce que Dieu a fait qui est capable du baptême. L'âme humaine. Un corps chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il est humain le corps. L'âme peut être chrétienne. Et alors le corps par l'âme. Donc un régime politique peut être dit chrétien quand il ne s'oppose pas à la finalité chrétienne. Mais il y a toujours un métaxu. Pas directement. Et je crois que ça c'est très important dans la question. Parce que le langage porte les idées. Alors quand on ne voit pas que ce qu'on dit n'est pas tout à fait correct, au bout d'un certain temps, la parole est tellement puissante qu'elle a remplacé l'être. Vous voyez ? Quand on est disciple d'une propagande. On a remplacé l'opinion des hommes à la réalité. Or, la vérité, c'est pas être conforme à l'opinion des hommes. Être conforme à l'opinion des hommes, c'est dire le bon vent. C'est pour vous montrer que la philosophie nous sert énormément à savoir ce qui est capable d'être baptisé. Si tu es capax. Alors, dernière petite question. Le faux. Est-il seulement l'absence du vrai? Alors ça, c'est Sartre qui part derrière. Hein. Le faux, est-il seulement l'absence du vrai? Pierre est absent du café. Pierre est-il là? Non, il n'est pas là. Ou absence du vrai, ou négation du vrai. Le faux est-il seulement dans l'intelligence? L'inadéquation intellectus ad rem. Puis adéquatio intellectus ad rem. Alors, inadéquatio intellectus ad rem. Ou existe-t-il un faux ontologique aussi? C'est une très bonne question, ça. Vous comprenez, dans toutes les philosophies où la négation est première. C'est une des questions qui est très importante, ça. Dans la philosophie aristotélicienne, le vrai est premier. Et le faux se dit à partir du vrai. Il arrive un moment dans la philosophie, dans notre philosophie de notre époque, il arrive un moment où le faux est avant le vrai. Alors ça, ce serait très intéressant à repérer à quel moment le faux est devenu vrai, est venu premier. Eh bien ça, ça provient des théologiens. Saint Thomas dit que la négation à l'égard de Dieu est plus vraie que l'affirmation. Tiens. Parce que Dieu est transcendant, il est plus vrai en qualité de vérité de dire « Dieu n'a pas de corps ». C'est absolument vrai. Dieu n'a pas de corps. Cette négation a un poids de vérité plus facile à atteindre que dire Dieu est beau. Parce que dans l'affirmation Dieu est beau, c'est une affirmation analogique. Parce que Dieu n'est pas beau comme le cheval. Dieu n'est pas beau, pourtant, un cheval beau, ça a de l'allure. Dieu n'est pas beau comme le cheval. Dieu est beau, comme Dieu peut être beau. Donc, l'affirmation « Dieu est beau » est analogique. Il n'y a plus grand-chose du beau qui demeure. Ou exactement le contraire. Le beau est tellement beau qu'il prend tout. En théologie, la négation est plus vraie que l'affirmation. Oui, elle est plus forte. Il existe une théologie négative. Quand j'étais plus jeune, j'aimais de prêcher toujours des retraites de fin d'études. Et dans la retraite de fin d'études, au milieu d'une retraite, je donnais deux cours de philosophie pour reposer. Et c'était quelque chose de toujours très important. Parce que il était normalement capable de comprendre un peu ce que c'était que la philosophie. Et ça appelait leur intelligence. Alors pour ceux qui n'étaient pas très portés par la foi, il y avait un éveil d'intelligence qui faisait qu'à ce moment-là, tout le monde écoutait. C'était très curieux comme phénomène et très intéressant à voir. Et il vous écoutait beaucoup mieux après en théologie quand il y avait eu un cours de philosophie entre deux, parce qu'il voyait au cours de philosophie ce qu'on disait était intelligent. Et donc, ils acceptaient plus facilement qu'on prêche la foi. C'est une ouverture très nette. Et je tâtais toujours le pouls de l'auditoire en prenant l'ordre de l'affirmation et de la négation. C'était une manière de et l'auditoire. Et tout le monde, au début, etc., était d'accord que l'affirmation était première. À un moment donné, je me souviens très bien, une année, et je sais à quel endroit, où je disais que l'affirmation était première et que la négation était seconde. Et une jeune fille a levé la main à dire non, c'est pas vrai. La négation est première. Alors, ça a pris à ce moment-là une allure où tout le monde était très éveillé. Je demandais s'il y avait d'autres qui étaient pour la négation première. Ça m'intéressait. Parce que pour moi, c'est le signe de la modernité. Il y a eu un changement de pensée dès qu'on a considéré que la négation est première. C'est fondamental. Hein. C'est tout à fait fondamental. Je ne fais pas la recherche ici, mais c'est fondamental. On doit se poser la question, est-ce que l'affirmation pour nous est première ou la négation est première? En théologie, la négation est première. Quand saint Thomas parle en théologien de la simplicité de Dieu, il aboutit à la simplicité de Dieu après 7 négations. Et c'est la première question théologique, la simplicité de Dieu. 7 négations. C'est quand même impressionnant, ça, pour une affirmation. Dieu est tout à fait simple. Si vous pensez Dieu est tout à fait simple, ça implique 7 négations et un escalier. Donc, en théologie, la négation est première. En philosophie, l'affirmation est première. C'est très net. Mais tous les philosophes n'ont pas affirmé ça. Il y a des philosophes qui ont affirmé que la négation était première. Or, si l'affirmation est première, si la négation est première, vous ne pouvez plus découvrir l'existence de Dieu. Parce que la négation ne me met pas en face d'un être premier. C'est pour ça que c'est si important. Si dès le point de départ, vous commencez votre philosophie, si vous êtes disciple de Sartre, vous prenez la négation première. Parce que Sartre, c'est la négation est première. C'est la négation qui me libère. Et c'est juste l'inverse du point de vue chrétien quand vous dites que la charité, la charité fraternelle est première. C'est le lien avec l'autre. C'est pas la négation. Et c'est la charité qui me libère. Il y a là quelque chose d'extrêmement profond. Et ça touche cette question-là, vous voyez. Si la négation est première, l'erreur, le faux est premier. Et ce n'est plus l'adéquation de ce qu'on dit avec la réalité. Le faux est premier. Le vide est juste l'inverse du bien. Le vide attire. Comment se fait-il que des personnes sont attirées par le suicide ? Mais d'une façon extrêmement forte. Les jeunes, aujourd'hui, sont attirés par le suicide. Pas tous, heureusement. Mais il y a beaucoup plus de suicides qu'il y a 50 ans. Beaucoup plus. À cause de l'attraction très particulière de la négation. La négation, elle a ceci tout à fait particulier, c'est qu'au fond, en niant, vous affirmez que votre intelligence est capable de nier. Elle n'est pas capable de créer, elle est capable de nier. C'est le démon qui est le prince de la négation. Parce que, au point de vue négation, il peut être premier. Au point de vue de son être, il n'est jamais premier. Il est une créature. Il est second. Dans la négation, ah, je suis premier. C'est pour ça qu'on aime de nier. La négation est une espèce d'exaltation de l'intelligence. Alors, c'est pour ça que le faux peut attirer terriblement. Je nie. Cela n'est pas. Et considérer que le faux est quelque chose de premier, c'est terrible. C'est d'empêcher mon intelligence de se développer. Alors, il faut, par la négation, voir comment le faux peut m'attirer. Parce que, dans le domaine du faux, je peux être